Jusqu'en 2003, il était impossible aux Chypriotes de passer d'un côté à l'autre. Hein. Ce qu'on appelle la ligne verte, c'est-à-dire une ligne de démarcation, était tout à fait hermétique, un peu comme le mur de Berlin. En 2003, la ligne a été ouverte, les gens ont pu se retrouver. Ça s'est passé sans incident, sans manifestation de haine les uns contre les autres. Et depuis, les Chypriotes, Grecs et Turcs ont appris à se connaître à nouveau, à se retrouver, en particulier la jeunesse. Il y a eu beaucoup de mouvements de réconciliation, de mouvements de société civile pour se retrouver, apprendre à se reconnaître. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans, bientôt 15 ans, que ce processus a commencé. Donc les Chypriotes veulent que les choses avancent.
Une première, il semble qu'aujourd'hui il y ait une véritable volonté politique de réunifier l'île, notamment depuis l'arrivée de Mustafa Akinci, le responsable turc, l'an dernier, en 2015.
Oui, oui. Ça, c'est une chance en ce moment, parce que, justement, souvent, il y a eu des partisans de la réconciliation, de la réunification, mais seulement d'un côté. Et là, nous avons des gens qui veulent faire avancer les choses des deux côtés.
Quels sont les points de discussion qui, aujourd'hui, ne posent plus problème ?
Le point sur lequel tout le monde est d'accord, je pense, c'est que Chypre est un pays indépendant. La plupart des Chypriotes, je crois, veulent se débarrasser de la tutelle des deux mères patries, la Grèce et la Turquie. Et puis, depuis 2004, Chypre fait partie de l'Union européenne. Toute l'île, y compris la population turcophone. Donc là, il y a un consensus, il y a un certain, je n'oserais pas dire bonheur, mais satisfaction d'appartenir à un pays qui est reconnu et qui fait partie de l'Union européenne. Les Chypriotes ont envie de se retrouver entre eux.
Et parmi les difficultés, il me semble aussi qu'il y a celle de savoir ce que vont devenir les 200 000 colons turcs qui sont donc dans le nord de l'île en cas de réunification.
Ankara a fait venir dans le nord de Chypre une population de colons, enfin une population d'origine continentale, anatolienne, turque, qui s'est établie dans l'île, parfois depuis maintenant une génération. Beaucoup de ces gens ont eu des enfants qui sont nés dans l'île, qui se considèrent comme chez eux. Et il faut composer avec cette population qui est très influencée par la politique d'Ankara. Les Chypriotes turcs, turcophones, musulmans, qui sont originaires de l'île, qui ont toujours été dans l'île depuis des siècles. Cette population du Nord est généralement très opposée à la politique d'Ankara et même opposée à la présence de ces colons d'origine anatolienne dans l'île. Ça, c'est le premier point très délicat parce que faire de la population qui a été, pour ainsi dire, importée par la Turquie à Chypre et qui se sent chez elle? Il n'est pas question de l'expulser, personne ne veut ça, ça provoquerait de nouveaux drames. Mais il faut l'intégrer ou il faut que cette population se fasse accepter, ça c'est pas facile.
L'autre point, me semble-t-il, qui est très compliqué, c'est la présence de 43 000 soldats turcs,
oui.
Dont les Chypriotes, en tout cas du Sud, ne veulent plus entendre parler, ils ne veulent plus de cette présence.
C'est presque un consensus aussi entre les gens du Nord et les gens du Sud, c'est que cette présence militaire est très très lourde. Songez que Chypre est plus petite que la Corse, ou à peu près de la taille de la Corse, 40 000 hommes. Et moi, à l'époque où j'avais enquêté sur Chypre, j'avais compté une trentaine de camps militaires, en plus un très grand nombre d'établissements militaires dans ce tout petit territoire qui est un tiers de l'île. L'armée turque occupe une position privilégiée, non pas dans la gouvernance officielle, mais c'est la main d'Ankara. En fait, c'est le pouvoir réel à Chypre. Le commandant des forces armées turques à Chypre occupe la deuxième place dans le protocole de ce territoire, juste après le président de la République. Et les Chypriotes du Nord, eux-mêmes, donc ceux qui au début s'estimaient avoir été sauvés par l'armée turque en 1974, ont du mal à supporter cette présence.
Vous avez parlé de la mainmise d'Ankara au niveau même politique. La République turque de Chypre du Nord dépend aussi économiquement d'Ankara.
Oui, elle dépend sur tous les plans. Sur le plan économique, bon, ça a été... Au début de la séparation, les Chypriotes du Nord ont vécu une période très difficile parce qu'ils étaient très isolés. Et donc l'aide d'Ankara, à ce moment-là, a été bienvenue dans les années 70 jusque dans les années 80. Et puis ensuite, toute l'économie a été pratiquement confisquée par Ankara. C'est-à-dire que tout le commerce, l'armée elle-même joue un très grand rôle économique et a joué un rôle pratiquement de monopole dans le commerce pour l'importation des denrées venant de Turquie par le biais de ses coopératives. les hommes d'affaires turcs ont mis la main sur énormément de propriétés foncières qui sont très précieuses. C'est la plus belle côte de Chypre. Donc pour le tourisme, c'est très très important, l'immobilier.
Comment est-ce que Ankara justifie aujourd'hui sa présence dans le nord de Chypre ?
La présence de la Turquie à Chypre, la Turquie la justifie elle-même par et ça c'est un point très important des négociations, par le traité de 1960. Chypre était une colonie britannique jusqu'en 1960, et le traité de Zurich et de Londres de 1960, c'est le traité d'indépendance. Mais c'est une indépendance bizarre, puisque trois pays ont obtenu le titre de puissance garante de l'indépendance. Donc c'est complètement contradictoire. La Turquie, la Grèce et la Grande-Bretagne, par ce qualificatif de puissance garante, ont le droit d'intervenir dans les affaires chypriotes. Donc c'est un traité d'indépendance qui donne en fait une indépendance limitée par trois autres pays. Alors Ankara revendique le droit de rester puissance garante, donc de pouvoir mettre le nez dans les affaires chypriotes, pas seulement du Nord, mais les affaires chypriotes en général. Et ce droit de puissance garante maintenant est complètement rejeté par le pouvoir de la République chypriote. Et donc c'est un point de désaccord très important.
Après le putsch raté du mois de juillet dernier en Turquie, au regard bien sûr de ce qui se passe en ce moment, de la répression qui est en cours, est-ce qu'on peut espérer que Ankara lâche du lest et accepte cette réunification ?
Le contexte général du pouvoir d'Erdogan en Turquie, qui se raidit de plus en plus, ça rendrait pessimiste sur ces négociations, parce que le président, entre guillemets, de l'autorité du Nord est partisan de la réunification, mais il n'est pas maître chez lui, en fait. Il y a en permanence des ministres turcs qui débarquent à Nicosie Nord et puis qui remettent les pendules à l'heure. Et à propos de pendules à l'heure, la Turquie a modifié son régime d'heure d'été et d'heure d'hiver. Eh bien, même ça, même dans ces détails-là, Chypre Nord suit la Turquie. Rien ne se fait à Chypre Nord qui n'est pas en accord avec ce qui se passe en Turquie. Ça n'est pas possible. C'est très difficile aux dirigeants de ce territoire d'avoir la moindre volonté d'indépendance, et l'armée turque est là pour rappeler cette réalité. Donc ce qui se passe en Turquie en ce moment est très inquiétant pour la Turquie et tellement grave que j'ai du mal à imaginer que la Turquie laisse se développer une petite volonté d'indépendance dans ce petit territoire qu'elle considère comme stratégique pour sa sécurité.
Donc les Chypriotes turcs veulent s'émanciper d'Ankara, mais dans le sud, est-ce qu'on est prêt à cette réunification ? En 2004, justement, le non l'avait emporté à un précédent référendum sur cette question.
Je crois que les Chypriotes du sud sont revenus à la raison et accepteront la réunification, mais sous condition d'indemnisation. Et c'est à cause de ces questions foncières, de ces questions immobilières principalement, que les Chypriotes du Sud avaient voté contre le plan Annan à l'époque. Les Chypriotes qui ont été expulsés en 1974 du Nord ont perdu tous leurs biens et ça comportait beaucoup d'immobilier, des hôtels, des restaurants, beaucoup d'établissements touristiques, simplement des terrains, mais qui ont obtenu ensuite une très grande valeur foncière vu le potentiel touristique. Et ça, ils voulaient le récupérer. Mais évidemment, ça n'est plus possible, parce que depuis toutes ces décennies, la Turquie a joué un peu le même jeu qu'Israël, en colonisant et en aliénant ses propriétés, des propriétés qui étaient illégales, qui avaient été confisquées sur les Grecs. Elles ont été vendues beaucoup à des étrangers, à des Russes, à des Israéliens, des Arabes, des Britanniques. Et maintenant, cette question immobilière est un casse-tête, on ne peut pas revenir en arrière, ce serait extrêmement compliqué. Donc les gens du Sud qui avaient des propriétés sont bien obligés de faire une croix dessus, mais ils réclament des indemnisations. Le montant de ces indemnisations est un des éléments importants de la négociation. C'est un des points les plus difficiles. Ce n'est pas dramatique, mais c'est juridiquement très difficile.
On parle de 27 milliards d'euros, me semble-t-il. Oui. Qui pourrait payer ?
C'est aussi un des points très difficiles de la négociation, parce que la Turquie devrait payer normalement, puisque c'est la Turquie qui a envahi le nord de l'île, qui maintient son armée, qui occupe des territoires. Si la Turquie ne veut pas payer, il faudra une aide internationale, peut-être mettre à contribution les personnes ou les sociétés qui ont acheté illégalement les anciens biens des Grecs dans le Nord. Ça sera aussi un processus qui sera très long, s'il s'enclenche.